Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up. On est en 2019 mais nous sommes toujours là plus que jamais et vous allez écouter notre analyse de ce dernier Monday Night Raw du 14 janvier à Memphis. Je suis Raphaël et bien sûr je suis accompagné de l'inévitable Giscal. Bonjour Giscal.
Salut Raphaël, salut tout le monde.
Ça va bien Giscal? Tu es dans de nouveaux locaux, je crois, si j'ai bien compris. Hein.
Absolument, ouais, j'ai commencé un nouveau boulot hier, donc j'essaye d'adapter mes nouveaux employeurs à ma double vie, hein, qui est de podcasteur émérite et d'employé modèle. Donc,
Ah bah oui, voilà, ça marche dans les deux sens. Très bien, bah écoute, espérons que l'acoustique est aussi bonne, en tout cas, que précédemment.
Ouais, on va voir ça.
On va voir ça de suite. Bon, écoute, je crois que, sans trop spoiler, nous sommes plutôt positifs hein, sur ce Monday Night Raw de début d'année.
Oui, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Hein. On est lancé dans une longue road to WrestleMania, donc Memphis, hein, pays de la musique, pays d'Elvis, tout ça. Bon, pour commencer, c'est pas vraiment de la poésie qu'on va nous chanter, puisque le show est ouvert. Alors, tout d'abord, par Vince McMahon qui arrive en limousine sur le parking, hein, ça c'est toujours filmé, ça je sais pas pourquoi, ça ouais. Plaît aux gens beaucoup.
Petit truc un peu old school comme ça.
Ouais. Voilà, mais c'est pas lui qui arrive sur le ring, hein. Celui qui arrive sur le ring c'est Braun Strowman, donc le monstre parmi les hommes. Et Braun Strowman, la semaine dernière, il avait eu une très courte interaction avec Brock Lesnar. Ce coup-ci, Brock n'est pas là, et Braun nous dit que Lesnar, ben, il a peur de lui, et qu'il essaye de l'éviter le plus que possible. Mais qu'à la fin, il finira par avoir ses mains, comme on dit. Hein. Sur ce, c'est Baron Corbin qui arrive, hein, toujours en costard, toujours classe, même si, comme le lui rappelle Braun Strowman, t'es plus du tout en charge du show puisque t'as été viré. Corbin, il se moque, il dit que lui, il va aller tranquille au Royal Rumble, il va gagner, il va aller main eventer au WrestleMania 35, ce que Braun ne fera jamais d'après lui. Alors ça, Strowman, ça l'énerve même plus que de raison, puisqu'il va poursuivre Baron Corbin dans les coulisses. Il va le poursuivre longuement, il va le chercher un peu partout. Il va en profiter pour détruire un des deux Singh Brothers qui passait par là, parce que ça fait toujours bonne figure. Mais il ne trouve pas Baron Corbin jusqu'à ce qu'il soit aidé par la musique de Memphis, puisque c'est Elias qui a composé une chanson en direct live pour lui dire que Baron Corbin est caché dans la limousine. Alors du coup, Braun, il y va, il arrache la portière de la limousine, ce qui fait fuir Baron Corbin, mais là il arrête de le poursuivre, hein, Strowman, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, la limousine, elle n'était pas à Baron Corbin. Elle était à Vince McMahon qui arrive, qui est dépité de voir sa portière arrachée et la vitre brisée, sa belle limousine qui avait survécu à tant de choses. Donc il est vénère et il punit Braun Strowman de 100 000 euros d'amende. Bon, a priori, d'après Strowman, à la côte Argus, ça ne les vaut pas. Et par contre, il le prive aussi de son match contre Brock Lesnar au Royal Rumble. Donc choc total, notre grosse affiche disparaît. De colère, Braun en profite pour retourner la limousine, les quatre fers en l'air. Parce que bah, tant qu'à faire, hein, autant être puni pour un gros ouais. Truc.
À 100 000 balles, autant y aller, quoi.
Voilà. Donc, bah, c'était notre long segment d'ouverture. Je ne sais pas trop comment la foule a perçu ça, parce qu'on commence quand même par quasiment 10 minutes sur l'écran.
De petit entron, ouais, j'imagine.
C'est ça. Alors, toi, depuis ton écran, qu'est-ce que tu as pensé de ce moment important?
C'était assez télégénique, on va dire, comme ouverture, ouais, en effet, pour les spectateurs en live, je sais pas, mais du coup, ils l'ont vécu comme nous. Écoute, j'ai bien aimé, c'était un peu old school. Pour une fois, on va dire qu'on commençait pas par une promo micro, enfin, un petit peu quand même, hein, voilà, il y avait un petit twist, une petite variante. Alors, le coup du boss qui arrive dans la limo à l'ancienne, je trouvais ça sympa. Baron Corbin qui continue de se faire un peu ridiculiser pour ses faits d'armes passés et son humiliation passée, ça me va toujours aussi. Et puis bah, Braun Strowman, alors là c'est le choc. Donc je trouvais que le petit segment backstage a été bien foutu avec le petit caméo d'Elias et sa chanson et tout. Enfin tout était plutôt bien goupillé, je trouve que c'était assez fluide. Et puis bah, voilà le choc. Donc c'est bien pour une fois, hein, je trouve. Parce que j'ai toujours l'impression un petit peu que les mecs Les superstars, les catcheurs se prennent un peu pour des oufs parfois face au GM, face au boss, tout à gueuler. Bon bah là, écoute, face à Vince, ça a pas traîné. Le mec, tu fais le mariole. Bon bah je te dégage 100 000 balles et je te dégage de ton match. Bon, au moins comme ça c'est clair. Tu parles pas comme ça au patron. Donc dans l'ensemble, je trouvais que la dynamique du segment était pas mal. Et puis bah il y a une grosse surprise quoi. Le match est annulé. Alors voilà, bon. Probablement, on va pas se voiler la face, on peut pas faire comme si Internet n'existait pas. Il y a de fortes chances que ce soit lié à la blessure de Braun Strowman. On sait que il avait pas remis les pieds, dans un ring de manière très active, puisque à TLC, il avait usé de la stipulation pour ne pas catcher. Puis après, à Raw, il avait soigneusement évité les confrontations physiques. Donc manifestement, son coude n'est pas encore complètement remis. C'est un choc quoi. C'est vrai que Braun Strowman, Brock Lesnar, c'était un peu l'affiche, et Brock Lesnar commence à être le spécialiste des matchs qui s'annulent un petit peu en last minute, parce qu'avant les Survivor Series il avait changé d'adversaire, l'année dernière aussi, là à 2 semaines du Rumble il change encore d'adversaire. Bon, on va voir après dans la suite de l'émission que c'est peut-être pas pour le pire, hein, ça ouvre des nouvelles portes, mais voilà, à ce stade-là de l'émission c'était un gros choc et ça m'a plutôt bien plu. Ouais.
Moi, j'ai même limite un peu déçu que Vince, qui avait l'air vraiment très fâché, lui lâche pas un gros « You're fire ».
Bah ouais, presque, ouais.
comme tu l'as dit, effectivement, Braun Strowman, a priori, n'est pas remis de ses blessures, de sa convalescence. Donc, à voir comment ils vont traiter ça dans l'avenir. J'espère personnellement que c'est vraiment très ponctuel et que c'est pas pour faire de Braun Strowman... la nouvelle tête de Turc, oui, de l'autorité, on verra. Mais ouais. Donc le show s'ouvre sur une grosse annonce et on espère tous qu'il y aura quelque chose qui va progresser, qu'on en saura un peu plus par la suite. On va ouvrir une parenthèse féminine, comme tu adores ça, Giscal.
Ah, j'adore.
Nous allons passer dans le monde des filles. Alors la semaine dernière, vous vous souvenez que Ronda Rousey a appelé de ses voeux un match contre Sasha Banks, donc ça c'est acté hein, au Royal Rumble. Et ce soir, eh bien, la championne et sa challengeuse font équipe contre Nia Jax et Tamina, c'est-à-dire l'ancienne challengeuse et l'autre costaud. Et c'est Sasha Banks et Ronda Rousey qui gagnent, hein, pas plus de choses à dire sur ce match. C'est Sasha qui fait taper Tamina. À la fin de la rencontre, les deux jeunes femmes sont interviewées sur le ring et Ronda Rousey, elle est un petit peu maladroite, elle dit ouais, ça serait une grande fierté d'accrocher en gros Sasha Banks à mon trophée de chasse. Sasha, elle lui fait comprendre qu'elle est un peu plus que ça et que voilà, il faudra un petit peu redescendre sur terre là, hein. Elle va voir ce qu'elle va voir quand elle va devoir taper sur le ring. Donc elle se dispute, ça s'envenime, Sasha Banks s'en va, Ronda Rousey la poursuit pour s'expliquer. Et les deux jeunes femmes continuent à se disputer en coulisses avec l'intervention de Bayley pour défendre Sasha Banks et de Natalia pour défendre plutôt Ronda Rousey. Là-dessus arrivent les trois jeunes femmes qui aiment bien quand il y a du chaos, c'est-à-dire le Riot Squad. Et puisqu'elles n'ont rien d'autre à faire, elles proposent à Bayley et Natalia un 3 contre 3 ce soir si les deux gentilles trouvent une partenaire. Alors étonnamment, Bayley a l'air pas contente qu'il y ait un match. Elle est un peu déçue visiblement, mais Natalia accepte le challenge. Bon, je fais une pause là pour ce segment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en tout cas de la partie qui concernait Ronda et Sasha Banks?
Ouais, écoute, ouais, c'était pas bon, c'était à craindre, on va dire, les interactions entre les deux. Il y a un petit décalage quand même de niveau. Dès que bon là. On l'a dit, enfin, c'est souvent le commentaire avec Ronda Rousey dans les promos micro, c'est que face caméra, quand elle récite, on va dire, son texte et qu'elle se permet quelques petites largesses à droite à gauche, elle est pas mal. Quand c'est de l'interaction, du dialogue et qu'il faut mettre un peu du rythme, rebondir sur les phrases de l'autre, essayer de bien caler ses punchlines, elle est un peu plus en délicatesse. Donc je sais pas, j'ai encore une fois trouvé que cette promo était un peu bof. Et puis en plus son attitude là, oui, non mais c'est pas ce que je voulais dire, machin, enfin un coup je suis agressive, un coup je suis gentil, enfin je trouve pas que ça lui serve vraiment ce positionnement. Et au contraire, Sasha Banks, J'aimais bien. Enfin, je trouve qu'elle a un peu lâché ces tics de langage que je trouve agaçants. Je trouve que là, elle est pas mal dans son rôle un peu boss face. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Après, bon, le reste, impliquer Natalia, Riot Squad et compagnie, c'est. Bon, de toute façon, ils avaient annoncé le match en amont. Mais je vois. Bon, écoute, je trouve que c'était pas mal parce que ça permet de pas laisser non plus trop le spotlight sur des interactions Sasha Banks Ronda Rousey, donc à la limite qu'ils fassent un peu un mix et qu'ils en profitent pour inclure d'autres catcheuses, ça me va bien. Donc
Je suis d'accord avec toi,
ouais.
c'était comme tu dis à craindre, mais c'est vrai que ben Andara aussi, mais ça fait déjà plusieurs semaines, hein. Elle a beau être un peu unique, elle penche quand même très fortement du côté de ses gimmicks, de celle qui cherche à être copine, à se faire des potes.
Ouais, ça m'agace un peu, mais bon,
Et
ouais.
c'est vrai que là, avec Sasha Banks, mais bon, pourquoi pas, après tout, Ronda aussi, c'est vrai qu'on la voit tous comme une warrior, une killeuse, mais ça reste à la base une fille qui est une fan de la WWE depuis toujours et qui se retrouve un peu aussi à faire le métier dont elle rêve face
Ouais.
à des gens qu'elle admirait. Donc bon, on peut à peu près y croire, même si bon.
Ouais, on peut y croire. En fait, c'est. Bon, après, c'est perso, hein, mais c'est vrai que cette dissonance qui est vraiment très forte entre sa personnalité dans le ring et sa personnalité hors du ring, moi, m'empêche un peu de m'attacher complètement à elle, quoi. En fait, ça me déroute un peu trop, à mon goût, que voilà, ce soit une machine de guerre quand elle est dans le ring, et puis après, qu'elle soit un peu trop gnangnan en dehors, je trouve que ça colle pas. Bon.
Écoute, je propose qu'on conclue directement avec cette histoire, hein, même si c'est pas
Oui,
tout à fait
pardon. Oui.
la progression, il s'est passé d'autres choses entre. Mais on va parler de ce 3 contre 3. Donc le Riot Squad d'un côté, ça c'était prévu. Par contre, Natalia et Bayley devaient trouver une partenaire. Alors j'avoue que je n'avais pas senti venir le coup. Moi je m'attendais à Mickie James ou quelqu'un comme ça. Et ben pas du tout. La partenaire de Bayley, qui arrive d'ailleurs, je trouvais ça assez drôle, sur les cadavres des Bayley gonflables là sur le sol, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le même trip, on va dire,
Ah non.
puisque c'est Nikki Cross. Nikki Cross qui arrive, Nikki Cross, la petite chérie de NXT, l'ancienne membre du clan Sanity, hein, la seule femme de Sanity, cette femme complètement déjantée, complètement agressive. Qui arrive sur une pop plutôt correcte, j'ai trouvé.
Ouais.
Elle a bien fait marcher le public, qui a scandé NXT aussi. Et donc, elle s'est retrouvée dans cette équipe de trois, oui, un peu hétéroclite, hein, c'est pas tout à fait les mêmes personnalités.
Ah
Et évidemment, bah, sur une arrivée pareille, c'est la victoire des gentils. Et Nikki Cross, elle a bien contribué. C'est quand même Bayley qui place le tombé sur un elbow, à nouveau un elbow drop depuis le turnbuckle. Donc une prise qu'elle fait de plus en plus souvent, hein, à la place de son belly to belly suplex. Et du coup, ben voilà, Nikki Cross est parmi nous. Ça a plutôt bien marché. C'est pas la seule rookie qu'on va voir ce soir, mais on nous a bien précisé. Les rookies n'ont pas encore choisi un roster fixe. Ils vont un petit peu où ils viennent, donc on verra si on les revoit ailleurs à SmackDown. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nikki Cross? Tu vois qui c'est? Tu connais un peu?
Ouais, tout à fait. Non, mais j'adore. C'était. Alors, c'est une montée un peu paradoxale parce que j'aime énormément Nikki Cross. J'aime beaucoup son personnage. Enfin, voilà, elle est très, très entertaining. Enfin, très divertissante. Je sais pas pourquoi je fais des anglicismes à la con. J'aime bien. Et paradoxalement, j'avais un peu peur et j'ai toujours un peu peur de sa montée parce que elle a, on va dire, un gimmick. Très estampillé NXT et pas forcément très compatible avec le main roster. J'ai un peu peur de sa durée de vie, on va dire, dans le temps, avec ce côté de malade mental, sortie d'asile, là, complètement folle, chien fou dans le ring et tout. Je sais pas si ça va pouvoir faire la transition aussi bien qu'on l'aimerait. Mais bon, voilà, doute de côté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis très content quand même de voir monter pour elle. Donc ça me fait plaisir. Je trouve que cette utilisation et ce début, donc comme tu l'as dit, hein, pas attaché à un main roster, mais en tout cas voilà, ce match était très très intelligemment fait parce que voilà, donc c'est ce que je disais. Bon, on rattache d'une certaine manière un peu d'autres catcheuses. Dans l'inconscient collectif à la scène un peu majeure entre Ronda Rousey et Sasha Banks parce que voilà donc ce match un peu découle de bah, Bailey, Natalia qui étaient seules dans leur coin, qui se font provoquer par Nikki Cross, par la Riot Squad. Donc ça reste un peu une sorte de storyline un peu lié. Et on jette Nikki Cross là-dedans, donc dans un match qui est assez random, ce qui lui permet de tirer un peu la couverture à elle sans que ce soit nécessaire de construire toute une storyline. Enfin, je trouve que voilà, ce match était fait pour qu'elle brille, qu'elle débute. Et c'est ce qui s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Je trouve que voilà, elle a été bien mise à l'honneur dans ce match, très convaincante. Ruby Riott notamment qui a super bien celle pour elle, je trouve, dans ce match, qui était pas mal aussi. Donc voilà, écoute, c'est le genre d'utilisation, je trouve, qui est plutôt maligne, en marge du main event féminin à Raw, d'arriver à faire des petites oppositions comme ça. Qui sans enjeu se révèle utile pour un petit peu tous les acteurs. J'ai bien aimé voilà, ce qu'ils ont fait cette semaine dans l'undercard féminine, on va dire.
Un bon début, je suis d'accord avec toi. Ouais. On va être assez impatients, je pense, de l'avoir sur le Rumble. Ça peut être le genre de personne à faire la Iron Woman.
Ah ouais, ouais, c'est un match pour elle, ça. Ouais.
De la soirée. Bon, on verra. En tout cas, pour le moment, pas de lien avec Sanity. On verra si c'est.
Oui, ça c'est.
Ou négatif. Après, bon, bah, par exemple, on a vu que pour Carmella, ça s'est plutôt bien tombé qu'il ne la lit pas à Big Cass et Enzo Amore, finalement, dans le main roster.
C'est pas faux.
On verra bien ce que ça donne pour elle. On va repartir un petit peu chez les hommes, évidemment. La scène tag team. Ce soir, on a un match entre les Revival et la Lucha House Party. Alors, on a déjà vu ce match plusieurs fois. Sauf oui. Que ce coup-ci, puisque c'est plus Baron Corbin aux commandes, ça ne sera pas un Lucha House Party Rules, là, parce que, a priori, c'était lui qui décidait ça. les Revival, ils ont une raison pour ce match, c'est que la semaine dernière, ils ont perdu un title shot contre Rude et Gable, un title shot qui était un match Lumberjack. Et ils ont perdu alors que Scott Dawson, je crois de mémoire, avait le pied sur la corde au moment du tombé. Et ils disent que les Lucha House auraient dû le voir et ils n'ont pas prévenu l'arbitre. Donc bah, ils ne sont pas contents. Du coup, on a un match. Malheureusement, pendant le match, la WWE trouve opportun de nous mettre sur l'écran la porte du bureau de Vince McMahon avec devant cette porte plein de catcheurs qui, a priori, ben, essayent de se remettre un peu dans le game pour le title shot à l'Universal Championship. Donc, on voit pêle-mêle Heath Slater et Rhino, on voit la B-Team aussi, on voit Kurt Hawkins, et on voit EC3, une autre montée de NXT, le fameux Top 1%, qui, malheureusement, ne dit pas un mot, et tout le monde fait pareil. Dans le stade, n'ouvre la bouche à l'apparition de EC3. Il y a un certain silence. Bon, faut dire que c'était un peu bâtard cette utilisation avec le match en cours. En tout cas, sur le match, les Revival finissent par l'emporter et on continue à jouer sur ce jeu des pieds sur la corde puisque Grand Metalik avait le pied sur la corde au moment de prendre le tombé, mais Dash Wilder l'a enlevé et ça a permis la victoire de son partenaire. Donc, victoire du Revival. On aura sûrement, du coup, probablement une revanche. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, jusqu'à la bonne utilisation, le Revival, on les voit quand même toutes les semaines, mais...
Ouais, on les voit toutes les semaines, mais bon, franchement, j'ai toujours du mal à me passionner pour ce qui se passe pour eux. Bon, alors là, on va dire que c'était dans le bon sens. Les heels ont triché. Enfin, les heels ont profité d'une erreur pour l'emporter, contrairement aux deux derniers mois où le Revival a été soit floué par les Lucha House Rules, comme tu l'as dit, ou alors perdait sur des erreurs d'arbitrage, des filouteries, des gentils à chaque fois. Là, on va dire que ça a été booké dans le bon sens, sauf que tu te demandes en fait où est-ce qu'ils veulent en venir avec tout ça, et tu te demandes sans vraiment forcément être très intéressé de savoir ce qui va sortir de tout ça. Oui, comme tu l'as dit, probablement un rematch. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'histoire, à part que bah, du coup, on était des méchants qui se faisaient baiser. Et puis bah, du coup, bah, maintenant, bah, on a décidé qu'on n'allait pas se laisser faire et que nous aussi, on allait tricher. Enfin, c'est bizarre. J'y arrive pas.
C'est bon, c'est vrai que pas forcément très intéressant. Après, effectivement, voilà, c'est
le Revival il est là. Ouais.
Le Revival est là, c'est le seul créneau tag team masculin cette semaine à Monday Night Raw. Moi, je suis plutôt optimiste, hein. Je pense qu'on nous les montre beaucoup justement pour bien nous les faire accepter. Et je pense qu'ils vont
Ah
avoir
oui.
une bonne année 2019. Je les vois champions forcément. Peut-être plutôt après Mania, on verra. Ou à SmackDown s'il y a un check-up. Mais bon. En tout cas, ils sont là. On les identifie bien comme équipe maintenant.
Oui, non, je ne suis pas forcément pessimiste. Juste, bon, en tout cas, là, actuellement, ce qu'ils font avec eux, je suis pas fan. Mais après, je partage un peu ton sentiment.
Écoute, on va continuer parce que là, il y a du haut niveau qui nous appelle. Hein. Il y a carrément Vince McMahon qui arrive sur le ring. Vince qui a quand même perdu sa limousine quelques instants plus tôt. Il est sur scène. Il a à peine le temps d'ouvrir la bouche qu'il est interrompu par nul autre que John Cena. John
Ça fait
Cena,
plaisir.
Le frisé de la bande. Qui arrive avec sa formidable coiffure et John, eh ben, il laisse pas vraiment Vince parler. Il lui explique que, ben, en gros, il veut son title shot contre Brock Lesnar au Royal Rumble, hein, alors que la semaine dernière, il se bookait dans le Rumble match. Et, il a beaucoup d'appétit, John Cena, en début d'année.
Il a raison.
Donc, sa justification, en gros, c'est que ben, voilà, John, il a toujours été là pour Vince. Quand The Rock, Steve Austin, tous ces mecs-là sont partis, il était là. Et bah du coup maintenant il veut bien une nouvelle chance. Il est interrompu par Drew McIntyre, lui-même interrompu par Baron Corbin, lui-même interrompu par Finn Balor. Donc ça fait 4 mecs sur le ring autour de Vince McMahon. Il a du choix comme on dit. Alors Vince il va plutôt s'adresser au dernier arrivé. Il va dire à Finn Balor, bon écoute, bon Finn, ouais ok, ouais tu vas vite, tu sautes bien, tu sautes haut et tout ça. Mais voilà quoi, là il y a de la viande, il y a de la grosse viande sur le ring. Brock Lesnar, c'est un gros morceau aussi. Du coup, je sais pas trop.
Ouais.
Alors il sait pas trop, mais ça sera quand même le seul pour lequel Vince a un petit mot. Finn Balor il dit ok, ben on croit pas en moi, je suis au courant, bon, enfin je suis le seul à avoir été champion universel ici et je peux vous montrer ce que je sais faire. Et là ça part en baston général, sauf que du coup le seul qui reste debout et qui arrive à foutre des claymore kicks à tout le monde, c'est quand même Drew McIntyre qui finit très impressionnant tout seul au milieu du ring. Finn Balor, John Cena, Baron Corbin, tout le monde est couché par terre. Vince il dit qu'il aime bien ça, il aime bien ce qui s'est passé, donc il propose ce soir un fatal four-way entre les quatre bonhommes et le gagnant affronte Brock Lesnar au Royal Rumble. C'est un gros scoop. On finit pas là-dessus parce que juste après, dans les coulisses, notre ami Vince, il est interrompu par Jinder Mahal qui le supplie de lui donner une chance aussi. Et, il n'avait pas pu être là, Jinder Mahal, parce qu'il s'occupait du Singh Brother qui était blessé. Du coup, Vince lui dit, écoute, si tu veux ta place dans le Fatal 4-Way, tu choisis un des quatre mecs, tu me le dis, tu l'affrontes dans la foulée et si tu le bats, tu prends sa place. Jinder Mahal, il réfléchit pas très longtemps, il dit ok, ben j'affronte Finn Balor et je lui prends sa place dans la foulée. C'est booké, on va faire une petite pause là d'analyse avant de parler de ce match du contender pour le Fatal 4-Way pour le Brock Lesnar Challenge. Qu'est-ce que tu en as pensé jusqu'à là, ces quatre mecs tout costauds au milieu du ring? Ça t'a plu?
Ouais, non, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. J'ai trouvé que, enfin, j'étais vraiment captivé pendant tout le segment. Je trouvais que c'était super bien fait. Alors, ça a pas révolutionné le genre. Hein. C'était pas une promo très originale. Hein. Le coup du le champion n'a pas de challenger, qui est chaud et de voir 3, 4, 5, 6 mecs parfois, on sait pas venir en mode porte de saloon, tous défendre leur chance et que ça se termine dans un match entre tous. Ça s'est vu des milliards de fois, mais j'ai trouvé que bah là, la dynamique du segment était top parce qu'il s'est passé tout plein de choses. Déjà, l'arrivée de Cena dès le début, moi, on va pas se mentir, hein, j'étais super chaud. La perspective d'avoir bah, finalement une sorte de petit match de gala de remplacement, John Cena contre Brock Lesnar avec le 17e titre de champion du monde en ligne de mire au Royal Rumble, ça me bottait grave. Et puis après, bah, de voir finalement tous les autres sortir, et puis de voir bah, Drew McIntyre sortir, tu te dis yes, ça c'est pas dégueu. Bon, Baron Corbin évidemment,
c'est dégueu.
C'est dégueu, non mais bon, il vient là, on va dire un peu pour équilibrer la balance. Puis après Finn Balor qui arrive, tu te dis ah ça c'est cool. Tous les petits échanges. Bon alors, on va pas se mentir, quand Vince McMahon s'est adressé à Finn Balor, c'était un petit peu le spoiler tag. qui clignotaient en rouge au-dessus de leur tête, c'était cramé, et encore plus cramé après derrière sur la suite quand ils ont booké Jinder Mahal, Finn Balor, que Finn Balor allait gagner derrière. Mais ça m'a pas déplu pour autant. Parce que voilà, c'était, on verra quand on analysera, tout ce qui s'est passé, le main event et tout. Le Raw était très bien construit, je trouve, pour proposer en tout cas cette montée de Finn Balor. Mais voilà, j'ai bien aimé les échanges, j'ai bien aimé comment est-ce qu'ils ont utilisé tout le monde. Et puis ça donnait un sacré, une belle péripétie, des beaux rebondissements pour ce shot à Brock Lesnar. Donc voilà, cette promo m'a bien plu. Et on verra quand on parlera du main event. Mais pris dans son ensemble avec le main event et le match contre Jinder Mahal, j'ai trouvé que tout ça avait une très belle cohérence d'ensemble sur cet épisode.
Ouais, on est d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'est vrai que des fois, la WWE, ses meilleurs moments, limite, c'est ça. C'est un peu dans l'urgence.
Oui.
On a quatre mecs qui avaient les dents longues. C'était bien intense. C'était beau à voir. Bon, c'est vrai que ça aurait pas coûté cher, je trouve, d'envisager une sorte de petit tour d'horizon de la part de Vince. Hein. Il a eu un mot pour Finn Balor.
Oui.
Il aurait pu dire à Cena, bon ben ok, t'es une légende, mais enfin toi non plus, t'es pas là souvent. Il aurait pu dire à Baron Corbin, bon ben j'ai pas l'impression que la foule t'aime beaucoup. Il aurait pu dire à Drew McIntyre, je sais pas, quelque chose d'autre.
Ouais, t'as déjà eu ta chance il y a 6 ans quand je t'avais choisi, machin, je sais pas, on aurait pu faire une petite pique là-dessus.
Voilà.
C'était drôle d'ailleurs, c'était la première fois qu'on revoyait Drew McIntyre et Vince McMahon dans le même ring depuis sa période Chosen One il y a quelques années, donc ça aurait pu être sympa de faire un clin d'œil. Mais...
C'est vrai, alors c'est bon, c'est la WWE, souvent on met qu'un seul personnage en vue à la fois, hein,
oui.
Mais quand même, Drew était assez... Bon, je me répète, mais moi je l'aime bien, assez impressionnant, oui. quand il s'est relevé là après le deuxième Claymore Kick sur Cena, hein, je crois.
Ouais. Non, ouais. Et puis on va justement, si tu fais bien de le rappeler, parce que j'en ai pas parlé, mais les grands gagnants du segment, bon, au-delà du fait que voilà, l'interaction avec Vince, spoiler un petit peu, voilà, Finn Balor a vraiment été mis en évidence pour son côté t'es un underdog, t'es un petit au milieu des géants, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et tout. Et puis Drew McIntyre qui a eu le dernier mot à la fin. Voilà, sur les quatre catcheurs au milieu du ring, c'est quand même un peu le futur qui a été mis à l'honneur, quoi. Drew McIntyre pour son physique et Finn Balor pour ce qui se passera après. Mais voilà, John Cena et Baron Corbin ont été bien utilisés dans le sens où ils étaient plus là pour donner le change, pour équilibrer. Mais on a compris qui étaient les deux quand même futurs chauds, quoi.
L'Europe, c'est ça l'Europe, ouais. Messieurs dames. Et bah écoute, on va enchaîner, puisque entre temps il y avait eu le 3 contre 3 féminin, mais on en a déjà parlé. Donc Finn Balor affronte Jinder Mahal. Il a pas de bol, Finn Balor, parce qu'il est attaqué par les Singh Brothers au moment où il est en train de poser là sur son entrée, les bras levés. Donc ça détruit un peu sa dynamique. Il est quand même courageux, Finn Balor, parce qu'il a pris cher avant même que la cloche sonne. Il met beaucoup de temps à se relever, beaucoup de temps à enlever sa veste. Je crois que c'est notre arbitre préféré à tous, hein, là, le petit Black Chauve qui en fait des caisses pour les, pour les demander.
T'es sûr, t'es sûr?
Ouais, alors Finn Balor, il a dû dire 10 fois oui, mais l'arbitre, il a attendu la 11e fois. Bon, bah, d'accord, ok. Hey, ring the bell. Il commence mal. Finn Balor, évidemment, Jinder prend le dessus. Mais petit à petit, la situation s'inverse. C'était un match assez court et intense. Pas énormément de qualité forcément du côté de Jinder, mais ça s'est plutôt bien passé, hein, de la vraie hargne. Il a été agressif comme il fallait, l'Indien. Mais il va pas réussir à s'en sortir. Malheureusement, il va manger ce qu'on risque de voir souvent ces prochaines semaines. Un dropkick et puis ensuite un coup de grâce assez violent. Il est resté debout, vraiment, il est planté au sol. Et il remporte ce match sur le compte de 3. Finn Balor reste dans l'équation. Bon, tu en avais déjà un peu parlé. Je ne sais pas si tu as un mot de plus sur ce match, là.
Non, c'était, voilà, on va dire que la grosse ficelle se mettait en place à ce moment-là. Hein, c'était le match avec l'intervention des heels avant pour diminuer le face, pour qu'il fasse un grand comeback et qu'il l'emporte, et qu'on se demande tous s'il va être en état d'aller faire un second exploit en main event de la soirée. Le scénario et le booking étaient très clairs. Allez, j'aurais peut-être bien aimé que ce soit un poil plus court, parce qu'on va dire que le match n'était pas super, super, super fun, à part le finish. Mais bon, dans l'ensemble, ça a accompli son objectif. Et on embraye sur la suite, donc c'était, j'ai pas grand chose à reprocher.
Effectivement, Finn Balor a les moyens de se reposer un petit peu, puisque le main event n'est pas encore pour tout de suite. Entre-temps, on a une drôle d'affiche assez inattendue. On a un match pour le titre intercontinental, et d'ailleurs, nous aurons plusieurs séquences, enfin au moins une, mais je crois qu'il y en a eu deux, de Dean Ambrose, le champion actuel, en coulisses, donc toujours avec un gros manteau bien chaud, mais torse nu, parce qu'il doit faire mi-chaud, mi-froid en coulisses. Et bon, Dean Ambrose, en gros, il nous dit que voilà, c'est injuste, lui, il est le bien, et puis tout ça, c'est le mal, affronter deux adversaires, c'est le mal, affronter à Memphis, alors que c'est une ville qui pue, c'est le mal. Bref, vous l'aurez compris, Dean Ambrose est dans un triple threat ce soir pour le titre intercontinental. Alors bien sûr, il y a Seth Rollins au programme, mais il y a aussi, et c'est un peu plus inattendu, Bobby Lashley qui est là. Et l'affrontement commence avec un Dean Ambrose qui essaye de manipuler Seth Rollins pour affronter le Almighty Bobby Lashley. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop au début, alors qu'il y a un avion qui passe visiblement chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez.
Ah non,
pas. Non, bon, c'est bon alors. l'alliance ne se fait pas au début, quand Dean Ambrose la demande, mais elle se fait ensuite, durant le Triple Threat. On a les anciens du Shield qui vont aller jusqu'à sortir un escalier, une rampe d'escalier, ouais, pour aller taper Bobby Lashley. Donc, match très, très animé. Hein. La WWE sait bien faire les triple threats. Ça part un peu dans tous les sens. On a des souplesses de Bobby Lashley. On a des projections de Seth Rollins, comme d'hab. Et on a surtout, et on pouvait peut-être un peu s'y attendre, Lio Rush qui va venir sauver plusieurs fois son poulain, notamment en cassant un tombé hyper proche du 3. Et le pauvre Lio Rush, une fois qu'il a cassé le tombé de Seth Rollins, il a le mauvais réflexe, on va dire, c'est-à-dire qu'il reste planté au milieu du ring pendant bien 15 secondes à regarder ce qu'il a fait. Il aurait pu peut-être partir plus tôt parce que du coup, il se fait rattraper et il va prendre cher. Il arrive quand même à éviter Seth Rollins et en tout cas, il fait sortir un peu tout le monde du combat. Ce qui profite à Bobby Lashley, hein, l'ancien champion, arrive à placer un spear énorme. Alors de mémoire, c'est sur Rollins, hein, je crois, ou...
Un spear énorme sur. Enfin, tu parles du finish du match
parce que c'est ça.
Non, c'est sur Ambrose. Il le découpe.
C'est sur Ambrose.
Ah oui, littéralement, il le découpe en deux. Là.
Ah, je ne me souvenais plus. Gros spear. Il le découpe en deux, comme dit Giscal. Et il obtient le compte de 3. Bobby Lashley est donc ce soir le nouveau champion intercontinental. Lio Rush a joué pleinement son rôle. Et les deux frères ennemis du Shield se retrouvent sans rien dans leur besace. Surprise, bonne surprise, quand on dit Giscal, le spécialiste du Almighty.
Du spécialiste du Almighty. Bah ouais, non, enfin, grosse surprise et plutôt bonne surprise de mon côté. Je pense que peut-être que déjà cette ceinture hors de l'équation peut... je pense que Dean Ambrose et Seth Rollins en ont peut-être pas fini tous les deux. Et au final, à bien y réfléchir, ils avaient peut-être pas besoin de cette ceinture tous les deux pour... peut-être recentrer cette rivalité sur ce qui aurait déjà toujours dû être le centre de cette rivalité, à savoir leur histoire hein, commune qui n'a presque jamais été un facteur depuis plusieurs semaines, que ce soit dans le build de leur match à TLC ou après. C'était ça qui m'a déçu un peu. Donc écoute, Bobby Lashley, je pense, peut beaucoup mieux utiliser cette ceinture que Dean Ambrose. Donc là-dessus, je suis pas mécontent. Bon, c'était une grosse surprise. C'était une énorme surprise, même parce que très honnêtement, moi, je pensais que ce match était un petit peu random. Je pensais que c'était... d'ailleurs, ça n'enlève rien au caractère un peu agaçant de ce title shot, enfin de ce match lâché comme ça au détour d'un Raw. C'est quand même le deuxième match pour le titre intercontinental de suite à Raw. On a eu aussi un match pour le titre tag team la semaine dernière. Enfin, c'est une récurrence qui, moi, m'agace un petit peu. J'en avais parlé avec Bad Karma la semaine dernière. Ça me gonfle un peu ces title shots en weekly tout le temps. Maintenant, on a l'impression que c'est presque systématique. Et les pay-per-views sont rarement utilisés pour construire cette attente qu'il peut y avoir autour d'un match pour le titre. Ça, je trouve que ça trivialise un petit peu le truc, mais bon. ce commentaire passé, ce match était génial, le changement de titre complètement inattendu. J'ai adoré la réaction de Bobby Lashley et de Lio Rush après. T'as enfin des mecs qui sont complètement aux anges, quasiment au bord de l'orgasme là, d'avoir gagné un titre. J'ai trouvé que ça c'était une petite touche aussi très sympa. Et puis bah ouais, enfin je l'ai dit, enfin là le match était super plaisant. Il y a eu un spinebuster absolument monstrueux de Bobby Lashley sur Seth Rollins.
Ah oui.
Qui était hallucinant et scellé magnifiquement aussi. Le spear, enfin non mais voilà, tu l'as dit, hein, les triple threats, ils maîtrisent. Donc voilà, écoute, je pense que ça augure des bonnes choses pour Bobby Lashley, pour peut-être Dean Ambrose aussi et Seth Rollins pour qu'ils se reconcentrent un peu. Donc voilà, ça partait d'un match que j'aurais préféré ne pas voir, mais les retombées m'ont fait plaisir. Donc.
C'est vrai que je l'avais pas noté, mais ouais, moi je l'ai remarqué aussi. Enfin des heels qui, quand ils gagnent ceinture, ne vont pas l'attraper, glisser hors du ring et plutôt célébrer là en partant en reculant sur le titantron. Et ils ont vraiment
célébré. Ils étaient fous de joie, quoi. Ouais, c'était énorme.
C'était un très bon segment. Je pense que sans discussion possible, depuis le retour de Bobby Lashley à la WWE, c'était son meilleur match.
Ah oh ouais, facile. Oui.
Facile. Gros combat. Résultat inattendu. Moi, vraiment, avec ce nouveau Dean Ambrose avec sa veste, enfin son style là de vrai heel, m'attendais à un long règne intercontinental. Ouais, non, il en est privé assez vite et je pense, bon, il y aura, bah, du coup, il n'y a plus de clause de rematch, c'est vrai.
Non.
Mais je pense que là, il ne va pas le regagner. Hein. C'est vrai qu'il s'éloigne de tout ça. Ça fait plus de bien, effectivement, à Bobby Lashley qu'à lui. On va voir ce que ça donne pour la feud de Rollins. D'après certaines personnes, ça serait peut-être un indicateur pour le Rumble aussi. On a peut-être un vainqueur du Rumble entre les deux. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ça change un peu tout. Ça change un peu la perspective de la mid-card et de l'up-card, donc c'est plutôt pas mal.
Ouais, puis c'est vrai que ça change ce qu'on avait vu venir peut-être aussi, parce qu'on se disait que Bobby Lashley n'allait être qu'un vulgaire marchepied pour Seth Rollins en route vers peut-être un affrontement à WrestleMania pour le titre suprême et tout. Le fait que Bobby Lashley ait ce titre intercontinental et bah, on se dit que du coup maintenant on voit assez mal peut-être Seth aller courir après le titre intercontinental contre Bobby Lashley. Et du coup, bah, ça rebat un petit peu les cartes. C'est vrai que voilà, on s'était tracé un petit scénario tous ensemble et voilà, il y a un gros contre-pied qui est pas déplaisant.
Ouais. Là, du coup, sur un très très bon match et un très bon segment, moi je voudrais juste préciser qu'on a eu un peu les trois en interview avant le match.
Oui.
Et contrairement à ce que tu disais, moi j'ai été un peu déçu de voir que Seth Rollins, tout ce qu'il a trouvé à nous dire, c'est que Dean Ambrose, il a trahi ses frères le soir où Roman Reigns, il annonçait qu'il avait une leucémie
et
ça c'était pas bien.
Non mais je suis d'accord. De toute façon, les promos depuis entre les deux depuis un bail sont très décevantes. Soit l'un ou l'autre dit qu'il en a rien à faire de l'autre et qu'il veut se concentrer sur autre chose, ce qui est scandaleux. Soit en effet, c'est des promos un peu inspirés, quoi. Enfin, c'est il y a beaucoup mieux à faire entre les deux. Je perds pas espoir, mais bon, c'est dur.
On verra bien. En tout cas, voilà, on finit sur ce segment et on passe à autre chose. Alors, on va revenir un petit peu à la douceur féminine parce qu'on a quand même besoin de ça de temps en temps. Le segment étrange de ce Monday Night Raw, c'est juste avant le Moment of Bliss, puisque c'est le nouveau segment d'Alexa Bliss qui s'annonce quasiment hebdomadaire. Juste avant le début du Moment of Bliss, nous suivons un jeune préposé à la technique ou je ne sais quoi, qui vient apporter à Alexa Bliss une tasse de thé, de latte chai. Et comme la belle ne répond pas quand il frappe à la porte, il se permet d'entrer. Et Alexa Bliss était tout juste en train de mettre son soutien-gorge. Donc elle est quasiment toute nue, la pauvre. Elle est un peu perturbée, un peu énervée. Le jeune homme s'en va très très confus. Bon, voilà, c'est la WWE, on voit Alexa Bliss quasiment toute nue, voilà, je sais pas trop, enfin si, je crois savoir à quoi ça sert évidemment, mais ça sortait un peu de nulle part quand même.
Oui, ça sert quand même. C'est du, comme pour citer notre grand philosophe Ringside, c'est du cul, c'est ça, voilà. C'est ça qui fonctionne à la télé.
C'est ça, alors...
Je sais pas, moi ça, on a le droit d'être un peu pauvre de temps en temps. Moi, ça me dérange pas.
Oui, bon, on verra si ça devient un running gag, ça sera peut-être saoulant. En tout cas, là, pour un soir, on
Oui,
verra. Toujours est-il qu'Alexa Bliss, ça la perturbe pas trop et quand elle ouvre son segment Moment of Bliss, elle est bien habillée, elle est d'ailleurs très belle comme toujours,
magnifique.
et elle envoie du lourd, hein, puisque elle nous annonce quand même. Alors, il y a quand même quelque chose de très grave qu'elle a annoncé. Parce qu'elle nous a dit que Vince McMahon avait annoncé la création de tag team féminin. Sauf que c'est pas Vince McMahon qui a annoncé ça. C'est le Père Noël.
Eh oui.
Ouais. Et là, Alexa Bliss, attention à ce que tu dis, Alexa. Parce que là,
Parce que il y a des enfants qui regardent.
y a des enfants qui regardent. Alors qu'ils te regardent topless, je pense pas que ça les dérange, mais qu'ils apprennent ce genre de choses, ça peut être beaucoup plus gênant.
Suis d'accord.
Et du coup, par contre, elle a des grosses infos à nous donner à ce sujet. Déjà, elle nous dit que cette ceinture, enfin, ces deux ceintures, elles seront délivrées à Elimination Chamber, donc dans 5 semaines, et qu'il y aura les filles en cage. Donc, il y aura 10 femmes en cage. Non, pardon, 6, 12 du coup,
Oui,
puisqu'il y
12,
aura
12.
12, puisqu'il y aura 3 équipes de Raw, 3 équipes de SmackDown, et les gagnantes de cette Elimination Chamber repartent avec ces ceintures que Alexa nous dévoile, et elles sont plutôt pas vilaines. La foule, en tout cas, a l'air d'apprécier. Donc voilà, on a plus d'infos sur un titre qui semble parti pour le moment pour être en tout cas multi-brand. Qu'est-ce que t'en dis, toutes ces annonces? On fait une petite pause là dans le Moment of Bliss.
Ouais, bah écoute, sympa, voilà. Bon, on va pas, on a déjà émis chacun, je pense, dans diverses émissions depuis que cette rumeur existe, nos doutes sur, bon, voilà, est-ce que une division tag team féminine est pérenne? Est-ce que, comment est-ce qu'ils vont gérer? Ils ont clairement pas les moyens d'avoir des ceintures tag team par émission comme pour les hommes. Donc comment est-ce qu'ils vont gérer les défenses un petit peu, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont constituer des équipes de briquet de broc, enfin bref, le futur de cette division, c'est vrai, est un peu entouré de flou. Après, bon bah, il y a ça, et puis il y a l'effet d'annonce, on peut pas s'empêcher d'être un peu excité à l'idée de, bah voilà, des nouvelles ceintures qui sont d'ailleurs sublimes, enfin en tout cas moi je les trouve vraiment magnifiques, qui en plus vont couronner des champions de manière assez originale, parce que voilà, cette Elimination Chamber tag team féminine, bah, je trouve que c'est une belle idée qu'ils ont eue, d'utiliser une stipulation pareille pour un événement qui se veut important, en tout cas qui donne encore plus d'importance, voilà, au premier couronnement des championnes tag team. Donc voilà, je suis partagé sur ce segment entre, bon bah il y a cet effet d'annonce qui peut pas m'empêcher de me titiller un peu et de dire bah ouais, putain, c'est cool, j'ai envie de voir ça, et puis bah de et puis ce, de se projeter un peu dans l'avenir et de se dire bon bah voilà, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose de sympa vu les équipes qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a assez de profondeur? Est-ce qu'ils vont réussir à gérer des storylines inter-show? Est-ce que finalement, une fois que la ceinture va être dans une émission, est-ce qu'on va vraiment avoir des storylines croisées? Je sais pas. Enfin bref, il y a beaucoup d'inconnus. Donc attendons de voir.
Et pour le moment, en tout cas, bon, on savait qu'elle allait avoir ses ceintures féminines. Donc,
Oui.
tous ces questionnements, comme tu dis, on les avait depuis au moins un mois.
Ouais, mais moi personnellement, je sais toujours pas trop. J'ai pas de réponse, quoi.
C'est vrai, mais le moment était bien fait.
Oui.
C'était super bien, je trouve, d'avoir donné ça à Alexa Bliss, qui prend un poids certain à la WWE. Donc, belle annonce, belle affiche en perspective, comme tu dis. Je trouve ça très bien aussi que ça soit pas le truc convenu d'un tournoi avec WrestleMania. Enfin, on aura nos championnes à WrestleMania, sûrement la première défense du titre à ce moment-là, on verra. Est-ce que tu as réfléchi un peu au casting de qui pourraient être ces 6 équipes féminines?
Écoute, à SmackDown, on va forcément avoir Sonya Deville et Mandy Rose. Ça,
Iconics
c'est
aussi,
les
voilà.
Iconics. La troisième équipe, écoute, fut un temps, on aurait pu croire à. Il y avait une sorte d'association un peu fun entre Asuka et Naomi, mais maintenant, maintenant, je ne sais pas trop qui ils vont envoyer comme troisième équipe. C'est vrai que c'est un petit peu un point d'interrogation à SmackDown.
À Raw, je pense qu'on est.
Il y aura peut-être Carmella et je sais pas.
Ah ouais, t'as raison. À Raw, on a très certainement Tamina, Nia Jax,
Oui, ça c'est sûr.
le Riot Squad, et puis bah si on a Bayley, Sacha, on a les trois, quoi.
Bah ouais, du coup, oui, c'est vrai que oui, parce que Sacha, là, en ce moment, elle est impliquée en solo, mais bon, il y a fort à parier que, comme elle va se faire expédier par Ronda Rousey, elle fera partie du mix. Mais bon, voilà, tu vois, là, déjà en faisant la liste des équipes, bah en fait, on se rend compte que, bon, bah oui, les six équipes qu'on cite, ou qu'on essaye de citer, constituent 100% de la division féminine.
C'est
Et
ça.
partant de là, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui va. Bon, bah voilà, il va y avoir le premier couronnement, peut-être une, deux, trois feudes au début, et puis après, ah voilà, est-ce qu'ils vont réussir à dynamiser le truc, à faire varier, à créer des équipes? On verra, on verra, on verra.
Effectivement, on verra ce qu'il en est, on aura le temps d'en reparler. Bon, le Moment of Bliss n'est pas fini parce qu'Alexa a un invité, c'est un invité de prestige, hein, c'est Paul Heyman. Paul Heyman, l'avocat de Brock Lesnar, qui a l'air ravi d'être là avec Alexa Bliss. Bon, il n'a pas trop le temps de dire grand-chose, il parle un peu des challengers potentiels à Brock, il parle un peu de Drew McIntyre, il parle un peu de Cena, mais tout ce monde est très vite interrompu par une sorte de grand gogol qui arrive et qui se met à s'agiter dans tous les sens. Donc c'est Otis Dozovic, je n'avais pas son nom en entier, qui est débarqué à côté d'Alexa Bliss, qui fait un peu peur à Alexa Bliss. Donc c'est une nouvelle arrivée de NXT, en fait, c'est la moitié d'un duo, des Heavy Machinery, qui débarque. Donc un peu moment de flottement, moi j'ai trouvé pas très bien, un peu bizarre, voilà, le mec arrive, il dit pas grand-chose, enfin il dit rien, il pousse des cris un peu animaux, on dirait un peu un gorille qui tape sur sa poitrine ou je ne sais quoi. Il est vite rattrapé par son partenaire et puis par deux, trois officiels qui viennent le ramener. Alors est-ce qu'il postule avec son équipe pour être dans ce match Elimination Chamber? Je ne sais pas. Est-ce que tu as trouvé ça pertinent comme interaction? Et qu'est-ce que tu as pensé du passage de Paul Heyman avant, tant qu'à faire?
Oh, écoute, le pass l'interaction de Otis, ouais, moi ça m'a bien fait rire. De manière générale, on aura vu toutes les montées, sauf une, toutes les montées potentielles, à Raw un peu en backstage ou pas backstage là comme Otis qui a eu le luxe d'apparaître sous le titre Titantron. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt fun. Donc je spoil pas SmackDown, mais vous verrez qu'il y a une certaine continuité sur ce schéma. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intelligent et d'assez novateur. Au lieu de nous envoyer des vignettes d'ailleurs qui commençaient à devenir redondantes parce qu'ils avaient préparé un paquet de vidéos qui nous mettaient en boucle là, depuis 3-4 semaines. Enfin, j'exagère, 2-3 semaines. Là, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est une autre façon d'amener les nouveaux, bah, des petites interactions backstage. Donner l'impression un peu que la WWE est un écosystème vivant et qu'il se passe des trucs et que les mecs vont et viennent. Je trouve que c'est vraiment très sympa pour l'impression de show d'ensemble. Donc voilà, écoute, c'est une petite interaction inoffensive. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Puis ça plante un peu son personnage qui est complètement taré. Voilà, c'est le gros rigolo, très, très, un peu crado. Bon. Ouais, je trouve que c'était assez drôle. Et puis, bon, l'intervention de Paul Heyman, il a fait du Paul Heyman. C'était du classique. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Il a pas lâché de bombe. Hein.
Bon, c'était pas sa meilleure,
Non, c'était pas sa meilleure.
pas beaucoup de temps non plus. Ça met du prestige un peu au Moment of Bliss qui débute. Ouais,
Oui, c'est sûr, c'est ça.
c'était une bonne idée effectivement de nous les montrer quasiment tous ces rookies le même soir. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai lu beaucoup qu'il y en avait un seul qui n'était pas apparu, donc le fameux Lars Sullivan que tout le monde attend. Mais en fait, il y en a deux parce qu'on n'a pas vu non plus Lacey Evans, je crois qu'elle s'appelle.
Alors, si elle est apparue à un moment, on l'a vu dans un segment backstage. Attends, dis que je remette le doigt dessus. Je suis quasiment sûr qu'on l'a vu à un moment dans un segment backstage, mais c'est vrai que je l'ai su après coup, ça,
Oui.
Parce que parfois, c'est quand je regarde Raw, je fais des petites avances entre les segments et tu peux vite louper ça. Mais
Ouais.
du coup, elle était en coulisses quand Finn Balor marchait pour son match vers Jinder Mahal, avant contre Jinder Mahal, il est passé à côté d'elle. Elle était en train de se regarder dans un miroir ou un truc comme ça, je sais plus. Ou elle
D'accord. Oui,
parlait à
parce que
Mickie James, je sais plus ce qu'elle faisait. Ouais.
on a eu, je les ai pas détaillés, il y a eu quelques passages backstage. Notamment, on a vu un tout nouveau rookie sortir du bureau de Vince McMahon, puisqu'on a revu Jerry the King Lawler qui était là. Bon, c'est Memphis, hein, c'est sa ville, et il a croisé au passage le Noé José et son Exotic Express, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on a vu Noé José rapidement et Jerry the King Lawler, pardon. Bref, tout ça n'est pas très intéressant, contrairement à notre main event, car nous y arrivons. Finn Balor versus John Cena versus Drew McIntyre versus Baron Corbin. Le gagnant affronte Brock Lesnar pour le titre universel au Royal Rumble dans un peu plus de 2 semaines. Donc gros, gros enjeu. Gros match aussi, une quinzaine de minutes. Donc on reste sur un main event de weekly. C'est pas super long, mais encore une fois, c'est assez intense. Tout le monde est là, donc j'ai pas vraiment noté tous les spots qu'on a pu voir. Il y en a eu pas mal. Baron Corbin a pu placer son End of Days. On a eu du Glasgow Kiss évidemment de Drew McIntyre. On a eu de la projection par-dessus les cordes. On a eu un Attitude Adjustment énorme depuis la deuxième corde de John Cena sur Finn Balor. John Cena n'a pas le temps de porter le tombé, il est éjecté par Baron Corbin, mais Baron Corbin ne réussit pas à en profiter puisque Finn Balor relève l'épaule au compte de 2,5. Extraordinaire. Très très grosse résistance de Finn Balor. Plus tard, c'est Baron Corbin lui-même hein, qui encaissera un Attitude Adjustment. Mais au final, quand quasiment plus personne n'est là, c'est John Cena qui va encaisser un nouveau dropkick et un nouveau coup de grâce bien violemment planté debout.
Ah ouais.
Et il ne s'en relèvera pas, hein, Finn Balor. Il aura été violent sur la grâce ce soir. 1, 2, 3, comme tu l'avais dit, on pouvait s'y attendre. Finn Balor est le nouveau challenger au titre universel de Brock Lesnar. La foule est à fond, hein, ça marche vraiment bien. Et John Cena va même en rajouter un petit coup en prenant le micro et en lui disant, en gros, ouais, il y en a qui ne croyaient pas en toi avant, mais là maintenant, vas-y gamin, c'est toi le nouveau héros. Petite accolade, il lui lève la main, donc le boss de l'entreprise est là pour légitimer les plus jeunes, hein, c'est son taf là, donc il l'a fait. Bel affrontement, résultat, et eh ben voilà, Giscal, tu n'auras pas encore en tout cas John
Non.
Cena 17 fois champion du monde, mais est-ce que tu n'es pas trop amer? Ça va, tu l'as bien vécu?
Ah, je suis un peu déçu, on va pas se mentir, je suis un peu déçu, mais bon, je suis content pour Finn Balor. Je suis content pour Finn Balor, c'était son Monday Night Raw. Alors, la WWE est un peu la spécialiste des push express comme ça, hein, putain, bon merde, alors lui, ça va être lui notre challenger, il faut qu'on le recrédibilise en une émission. Alors vas-y, c'est parti, autoroute de la gloire. C'est un peu ce qui s'est passé pour Finn Balor cette semaine avec la petite promo avec Vince McMahon, et puis après la storyline du héros à la Daniel Bryan en deux matchs le même soir. On écarte un premier obstacle, et puis après on va créer l'exploit dans un multi-man en main event. C'est un petit peu le WrestleMania 30 pour Finn Balor.
Ouais, avec Jinder Mahal dans le rôle de Triple H.
Voilà, c'est moins glamour, mais bon, ça restait, je trouve, très efficace parce que. Bah, il n'y a rien de mieux hein, que de pour recrédibiliser un gars que bah de lui foutre tous les obstacles sur la route et de le et puis bah de le faire gagner de manière complètement triomphale et définitive à la fin. Voilà, ce Fatal 4-Way a été construit pour lui. Il a tout pris dans la tronche, hein. Il a pris les chokeslam, il a pris les spots, il a pris les coups de chaise, il a pris le End
Ah
of
oui,
Days de Baron Corbin.
c'est vrai que je t'interromps, mais oui, mea culpa, j'avais même zappé de noter ce passage. Oui, Baron Corbin
Ouais.
a sorti aussi les chaises, et c'est ça en fait qui a fait
Tout à
le
fait.
tournant du match, parce que c'est grâce à ces chaises-là qu'il a pu neutraliser Drew McIntyre et en partie Cena, et ce qui a permis de placer après le
Ouais.
tombé sans
Il était
intervention.
un petit peu au centre de toutes les near falls, Finn Balor. C'était son match, quoi. Donc voilà, il a pris le End of Days de Baron Corbin. Il a pris l'Attitude Adjustment Avalanche de le luxe, enfin le vraiment l'hommage, je sais pas comment
Ouais.
dire, mais ultime de John Cena. Hein, tu te relèves pas hein, de ça. C'est très rare hein, à part AJ Styles et Daniel Bryan, je crois, qui se sont relevés dans des matchs de gala, tu ne te relèves pas de ce move. Donc ça, c'est un peu l'adoubement de John Cena qui continuera bah, après le. Et puis en plus, il fait le pin sur John Cena.
Ouais.
Pour moi, c'était la surprise du match. Je pensais que c'était Baron Corbin qui allait qui allait bouffer le tombé parce qu'il était là pour ça. Et non, très très, enfin c'est beau je trouve d'avoir fait ce choix parce que voilà jusqu'au bout, ils ont vraiment voulu faire de ce Raw le Raw de Finn Balor pour qu'il aille défier Lesnar et jusque dans le tombé. Donc ça c'était vraiment bien vu aussi. Et puis avec après le petit segment micro de John Cena pour adouber son poulain. Donc voilà, écoute, j'ai trouvé que c'était très bien fichu. Au-delà du scénario un peu cousu de fil blanc, je trouvais que le match était super fun. Voilà, c'est du Fatal 4-Way comme on aime, dynamique, il se passe plein de trucs hors du ring, dans le ring. On a même eu un petit peu des chaises et tout. Il n'y a pas eu trop de. Il n'y a pas eu des tables et compagnie, mais bon, voilà. Donc c'était un peu le feu. Et puis bah maintenant, on se dirige vers cette affiche, Finn Balor, Lesnar, Rumble, qui, si le passé, en tout cas, si l'histoire est donneuse de leçons, s'annonce excellent, puisque c'est vrai que Brock Lesnar sort de matchs contre Bryan ou contre Styles, contre des petits gabarits très rapides, qui étaient vraiment géniaux. Donc on espère qu'il va pouvoir faire au moins aussi bien contre Finn Balor.
Ouais, je vois que tu es enthousiaste et je oui. partage tout à fait ton avis. Grosse soirée. Ce que je trouve bien, c'est qu'on est vraiment sur, en tout cas, a priori, hein, on va encore dire, voilà, on sait un peu ce que dit Internet. On part sur un programme un peu improvisé avec un changement, voilà, 2-3 semaines avant.
Sans doute, oui.
Sans doute. Au final, comme ça arrive de temps en temps à la WWE, je trouve le programme choisi finalement plus alléchant que l'original parce que Strowman Lesnar, ça me faisait très très peur pour Braun.
Ouais, moi, je suis d'accord.
Sans trop présager, hein, moi je vois évidemment pas du tout Finn Balor remporter cet affrontement, mais je pense que ça peut lui être très bénéfique. Parce que voilà, le gabarit David contre Goliath fait que si le scénario du match est bien ficelé, évidemment si Lesnar finit en 2 minutes, ça va être un peu dur, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Si le scénario du match est bien ficelé, qu'on a un Finn Balor qui joue très très héroïque, on peut avoir un très très beau match et ça peut vraiment faire du bien à Finn. En plus, je trouve que ça sort pas vraiment de. Enfin, ça sort un peu nulle part parce que tout a été fait en un soir. Ça fait quand même plusieurs semaines que Finn Balor est bien mis en vue. Hein. Il a pris le dessus sur Drew McIntyre, sur Dolph Ziggler, qu'on n'a d'ailleurs pas vu ce soir. Il était dans une dynamique positive. L'autre truc qui est très bien, c'est que ça a marché à fond. Et je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de catchers dans le roster avec lequel la foule aurait validé autant. Même Seth Rollins, je suis pas sûr que ça aurait... Là, tout le monde était vraiment très content. On sent que le mec revient un peu à sa juste place. Comme tu l'as dit, c'était bien écrit, même dans le choix de la présence de John Cena. Baron Corbin, bon, c'est un peu le nouveau Kane, hein, c'est lui qui fait un peu tout ce qui est old school et tout, mais bon, pour le moment, ça passe bien. Et puis, ça rebat pas mal de cartes. Moi, Finn Balor, j'en avais fait mon gros favori pour le Royal Rumble match en lui-même. Du coup, ça va changer. Donc tout est un peu remis en perspective. Mais belle écriture de show, belle validation. Beau programme pour Finn et je suis vraiment là aussi très optimiste pour son année 2019. Enfin, je pense qu'il a assez bouffé de mid-card pendant 2 ans. Je pense que tout le monde a conscience qu'il y a un gros potentiel sur ce gars-là. Voilà, ça sera probablement pas lui le tombeur de Brock Lesnar, quoique. Mais je pense que dès que Brock aura un peu laissé le spot, il aura tout ce qu'il faut pour lui. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, une soirée réussie pour la WWE, je pense qu'on peut le dire. Et ben, Fiscal, voilà, maintenant qu'on a résumé tout ce show, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin? Qui fut ton top, qui est ton flop et quelle est ta note?
Alors, c'est exceptionnel pour Raw, mais mon flop, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un flop, un segment qui m'a vraiment déçu. Il n'y en a pas vraiment eu. Alors, on va dire que mon flop, ce serait peut-être un léger carton jaune pour Ronda Rousey, que j'ai trouvé un petit peu en dedans du côté des filles. Ses interactions avec Sasha Banks et même son match. Je peine à rentrer dans leur rivalité de transition encore. Et c'est un petit peu à sa faute. Parce que je trouve que Sasha gère sa sa moitié du deal, quoi, on va dire, mais pas Ronda pour l'instant. Donc je suis un poil déçu, mais bon, ça reste assez efficace quand même. Donc ce sera mon mini flop, on va dire. Et mon top, mon top, en fait, bon, j'aurais pu le donner à Finn Balor, hein, mais on en a déjà beaucoup parlé. Je vais en profiter pour le donner à l'utilisation des rookies de NXT à Raw. Je trouve que c'est très intelligemment fait. Et encore une fois, sans spoiler SmackDown, voilà, je trouve ils vont un petit peu dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est quelque chose de novateur et de très fun et qui donne une impression beaucoup plus organique à l'émission, en fait. D'ailleurs, il y a eu pendant ce Raw pas mal de segments backstage, peut-être plus que d'habitude, des segments un peu vivants, des interactions, des dialogues, des trucs qui rebondissent sur d'autres segments. C'est quelque chose qu'on avait plutôt l'habitude de voir à SmackDown. Et là, je trouve que Raw avait plus de cohérence d'ensemble, plus de vie. Et ça va se ressentir sur ma note, puisque pour la première fois, je pense, depuis toujours, je vais mettre un 4 à Raw. Parce qu'il s'est passé plein de trucs et que je me suis pas fait chier à un seul instant. Les transitions étaient bonnes, les matchs étaient très bons et les promos étaient importantes. Il s'est passé sur toutes les scènes un petit peu. Victoire du Revival, changement de challenger pour le titre suprême, changement de titre intercontinental, les femmes qui continuent à développer des choses. C'était une très bonne émission. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Bien d'accord avec toi et je pense qu'effectivement il faut encourager Monday Night Raw, hein. Si Vince nous écoute là entre deux avions, il faut lui dire que c'est ce genre d'écriture qu'il faut continuer. Là on est vraiment pour moi dans un weekly qui sent le weekly de Road to WrestleMania. On a comme tu l'as dit, des grosses annonces, des gros matchs et on voit beaucoup de monde. Donc j'ai mis un 4 aussi comme toi.
Ah.
Ça fait plaisir. Au niveau du flop, tu m'as piqué un peu le mien. Je l'avais donné à Ronda aussi. Donc, je vais en improviser un de dernière minute. Le flop, je vais le donner à Braun Strowman. Alors, le pauvre, évidemment, il se fait piquer son programme parce qu'il est blessé. Ça va sûrement protéger son personnage de gros costaud, mais je l'ai trouvé quand même pas mal idiot dans l'histoire.
J'ai pas
compris pourquoi il s'est senti de poursuivre Baron Corbin partout, surtout pour au final le laisser partir, hein, puisque Corbin est sorti de la limousine, il s'est barré, et Braun Strowman, tout ce qu'il a trouvé de mieux à dire, c'est yeah, you'd better run, hein, tu fais bien de courir. Bon, un peu idiot quand même le Braun.
Ouais, un petit peu idiot.
C'est comme ça, tant pis pour lui. Et le top, moi je vais respecter un peu l'écriture du booking, hein. Top à Finn Balor, c'est sa soirée.
Il mérite,
grosse prestation, très bonne adhésion avec le public. Peut-être que ses collègues vont lui dire de faire un peu plus attention dans la gestion des coups de grâce, parce que là il a clairement mis tout son poids sur le ventre de ses deux adversaires, donc j'espère qu'ils ont pas eu trop mal, ils sont costauds, hein, ils ont de la ceinture abdominale. Mais c'est vrai que ça donnait un finisher avec une drôle de dynamique, hein. Il y avait cette petite seconde suspendue dans les airs. Mais bon, ouais, Finn Balor, costaud, et puis il faut assurer pour le Rumble, mon grand, on compte sur toi.
C'est ça.
Voilà, écoute Giscal, nous en avons fini pour ce Monday Night Raw, donc je sens que toi, en grand fan, j'ai bien compris que tu avais déjà vu SmackDown. Moi, c'est pas encore mon cas. En tout cas, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce Monday Night Raw, si vous êtes d'accord avec nous, si vous aimez bien Finn Balor, si vous faites partie de ceux qui trouvent que c'est un bien pour un mal parce qu'il va se faire désinguer au Rumble, si vous trouvez que non, c'est mérité. Dites-nous tout, dites-nous aussi ce que vous pensez de SmackDown, puisque évidemment l'analyse va suivre dans les prochains jours de ce show. On ne sait pas encore qui sera aux commandes, peut-être que Giscal y sera, peut-être pas, peut-être pas, et le suspect. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à nous soutenir, à nous laisser des commentaires, des pouces, des cœurs, que ce soit sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, et j'en oublie toujours un, mais je ne sais plus lequel c'est. Spotify peut-être.
Oui, Spotify, oui, aussi.
Spotify.
Tout à fait.
Ouais. Voilà, donc catch up toujours. Facebook, Twitter, Instagram, catch up CDC. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté, que ça soit une de vos bonnes résolutions pour 2019, que vous nous rameniez chacun une personne. Voilà, on n'a qu'à dire ça. On va lancer le défi. Et en attendant, écoute, je te remercie Giscal depuis tes bureaux tout neufs et fraîchement repeints d'avoir participé. à cette analyse.
Merci Raph pour cette présentation au poil, c'était un plaisir.
Eh ben, c'est un plaisir partagé. Donc, nous allons maintenant passer à la suite de notre journée. Nous vous remercions à tous de votre écoute. On espère que ça vous aura plu. Et comme toujours, nous vous souhaitons une excellente semaine pleine de catch. Ciao.
Salut tout le monde.